Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, un peu plus dans notre version podcast, il va être question cette semaine encore de régulation. La semaine dernière, je recevais Roch-Olivier Mestre, président de l'ARCOM, la nouvellement créée Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. On a longuement discuté des missions et des ambitions de ce super régulateur français.
C'est une régulation nouvelle qui est en train de voir le jour, mais qui ne peut pas être la même que celle applicable aux médias audiovisuels. On ne peut pas courir après les centaines de millions de contenus qui circulent chaque seconde sur l'ensemble de la planète par ces vecteurs.
Cette semaine, et à propos du même sujet, la régulation, on va revenir sur un événement qui a eu lieu à Niamey début décembre. Le Conseil supérieur de la communication du Niger a fêté ses 30 ans. Le CSC, c'est l'autorité qui régule les médias dans ce pays. Amélie Beaucourt s'est rendue sur place pour l'Atelier des médias et elle est avec moi en studio. Salut Amélie.
Salut Steven.
Pour son anniversaire, le CSC a organisé un colloque réunissant les autorités de régulation francophone de plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, ainsi que différents experts et journalistes. Le tout autour d'une question: comment réguler les médias à l'ère du numérique? Un défi sur lequel le Niger est en retard.
Oui, car aujourd'hui, le CSC n'est compétent que sur la régulation des médias que l'on pourrait qualifier de traditionnels, donc la télévision, la radio et la presse.
C'est l'équivalent de ce que l'on appelait le CSA en France jusqu'en décembre dernier.
Exactement. Et en matière de numérique, seule la loi contre la cybercriminalité, qui a été adoptée en 2019, touche aux problématiques que connaissent les médias en ligne et les utilisateurs des réseaux sociaux. Une autre institution, la HAPDP, la Haute Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel, a vu le jour récemment pour s'emparer des problèmes complexes que pose le numérique. Mais depuis sa création, elle n'est intervenue dans aucune affaire qui aurait pu marquer les esprits et la population nigérienne se pose des questions sur son rôle effectif. Il n'y a donc rien aujourd'hui qui permette de réguler les flux d'informations numériques au Niger, c'est-à-dire de protéger les utilisateurs et de filtrer les contenus qui pourraient leur nuire car ils contiennent par exemple des messages violents, haineux ou des fausses informations.
Pour qu'on se rende compte de ce que cela représente, Amélie, quelle part de la population nigérienne utilise aujourd'hui les réseaux sociaux ?
Alors, on a quelques chiffres provenant d'une étude de 2020 sur la dynamique des réseaux sociaux au Niger, une étude qui a été commandée par l'EISA, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. On compte environ 700 000 utilisateurs répartis sur les quatre grandes plateformes que sont Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Mais lorsqu'on parle du numérique au Niger, on inclut également la plateforme WhatsApp,
évidemment,
même si elle n'est pas un réseau social à part entière. Elle est utilisée par environ 1 million de citoyens sur les 2 700 000 qui utilisent la téléphonie mobile. Et on explique son succès pour deux raisons. La première, c'est qu'elle permet de faire des audios et qu'elle colle donc avec la tradition d'oralité du pays. La deuxième, c'est qu'elle ne nécessite pas de savoir lire ou écrire en français car le taux d'alphabétisation dans ce pays n'est pas très élevé. Environ 35% de la population nigérienne âgée de plus de 15 ans en 2018 sait lire et écrire selon l'UNESCO.
Quel est le profil type de ces utilisateurs? J'imagine que ce sont principalement des hommes.
Oui, près de deux tiers sont des hommes effectivement car ils ont un pouvoir d'achat supérieur à celui des femmes. Il est donc plus simple pour eux d'avoir accès à un smartphone et à une connexion Internet. Ce qu'il faut savoir, Steven, c'est qu'au Niger, pays dans lequel une écrasante majorité de la population gagne moins d'un dollar par jour, le coût de cette connexion Internet, ainsi que sa qualité et sa stabilité, sont les principaux freins à l'utilisation des réseaux sociaux. Et enfin, on voit aussi apparaître une population très jeune sur les réseaux, entre 13 et 18 ans.
Le colloque auquel tu t'es rendue, Amélie, a duré 3 jours. Au programme, des tables rondes et des échanges, dont certains tendus entre les participants. Tu as tendu ton micro à plusieurs d'entre eux, notamment à un mondoblogueur, Ousmane Mamoudou, pour comprendre avec lui les spécificités du numérique au Niger. On va également entendre Moussa Adamou, un représentant syndical qui a plusieurs reproches à faire au CSC. Mais avant, tu as rencontré Abdourahmane Ousmane.
Abdourahmane Ousmane, c'est l'ancien président du Conseil supérieur de la communication. Il travaille maintenant dans un cabinet de conseil pour lequel il s'occupe justement des questions du numérique et de la régulation. J'ai voulu voir avec lui comment le CSC comptait s'y prendre pour dialoguer avec les plateformes en ligne.
RFI.
Bonjour Abdourahmane Ousmane.
Bonjour.
Réguler les réseaux sociaux et les plateformes comme WhatsApp, très concrètement, qu'est-ce que ça signifierait ?
La régulation au sens classique, au sens des médias traditionnels, est une forme d'intervention des pouvoirs publics, donc de l'État, qui s'applique à des domaines ou politiques ou économiques qui ne sont pas en mesure par eux-mêmes, donc de manière intrinsèque, de pouvoir trouver leur équilibre et surtout de le maintenir à cause de plusieurs facteurs, dont le plus important, c'est la concurrence et la multipolarité. Et donc, de ce fait, l'État intervient dans ces secteurs, non pas pour les contrôler, mais plutôt pour leur permettre d'aboutir à un équilibre optimal qui permet leur utilisation rationnelle. Pour le cas des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tout simplement, l'utilisateur des réseaux sociaux n'a pas besoin d'une autorisation d'un organisme public ou étatique. L'utilisateur des réseaux sociaux a juste besoin d'avoir son téléphone, son smartphone, d'avoir une connexion Internet et de s'inscrire maintenant sur le réseau de son choix. Maintenant, la forme de régulation qui peut exister, c'est que les États peuvent fixer un certain nombre de règles générales. À l'image, par exemple, de l'Union européenne, qui a pris deux actes pour jeter les grands principes de la régulation des services digitaux et des marchés digitaux. Et ce principe-là, il est simple. L'Union européenne dit tout ce qui est illégal en dehors des réseaux sociaux, donc offline, en dehors des plateformes numériques, est aussi illégal sur les plateformes numériques. Et tout ce qui est légal en dehors des plateformes numériques est légal sur les réseaux. Donc, vous voyez, à partir de ce principe, maintenant, chaque pays membre de l'Union européenne peut prendre des dispositions réglementaires au plan national en fonction du contexte, en fonction de son évolution sociopolitique, pour essayer de construire une réglementation nationale. La régulation des réseaux sociaux ne peut se faire qu'à travers ces dispositions, mais il ne faut pas que la réglementation ou les tentatives de régulation des réseaux sociaux puissent aussi restreindre les espaces de liberté, parce que aujourd'hui, les citoyens africains, les Nigériens ont découvert à travers les réseaux sociaux non seulement des espaces de sociabilité, mais aussi des espaces de reconstruction de la citoyenneté. Une tentative de réglementation ou de régulation doit veiller à créer et à maintenir l'équilibre entre la liberté et la responsabilité.
Comment on y parvient maintenant ?
Je pense qu'aujourd'hui, on peut accroître la responsabilité individuelle des utilisateurs des réseaux sociaux à travers, comme l'éducation aux médias, mais aussi à travers une éducation aux réseaux sociaux. Il faut, par exemple, développer l'esprit critique des citoyens pour que même ceux qui font des publications de manière intentionnelle ou pour désinformer ou pour diffamer ou pour porter atteinte à la dignité humaine, que les utilisateurs puissent par eux-mêmes, à travers un esprit critique développé, puissent distinguer, par exemple, la bonne information de la fausse information. Il faut conscientiser les citoyens pour que, d'abord, qu'ils soient le premier maillon de la future régulation des réseaux sociaux à partir d'un processus individuel d'autorégulation.
Si maintenant un contenu problématique, que ce soit une fausse information, que ce soit de la diffamation, comme vous l'avez évoqué, passe à travers ce premier filtre, là, c'est le CSC qui devrait intervenir, mais quels moyens est-ce qu'on a à partir du moment où c'est diffusé sur des plateformes qui sont privées? Et est-ce que le CSC a un levier d'action sur ces plateformes?
Non, le CSC n'a pas explicitement de compétences sur les réseaux sociaux en tant que plateforme numérique, en tant qu'espace individuel. Par contre, on peut par extension dire que le CSC a ou pourrait avoir une compétence sur les réseaux sociaux quand les médias traditionnels se prolongent sur ces réseaux-là. Donc là, en ce moment, les réseaux sociaux deviennent des supports de diffusion de contenus médiatiques traditionnels et qui doivent obéir à un certain nombre d'exigences éthiques et déontologiques. Déjà, on voit que les plateformes elles-mêmes commencent à mettre en place un système d'autorégulation propre. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant. C'est la conjugaison des efforts à la fois des États, des plateformes et des utilisateurs qui peuvent aboutir un jour à une forme de régulation acceptée par tout le monde et surtout une forme de régulation qui ne va pas remettre en cause les acquis démocratiques sur les réseaux sociaux.
Mais pour qu'il y ait une co-régulation, il faut qu'il y ait un dialogue, je suppose, entre les différents acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le CSC ou d'autres autorités étatiques ont un dialogue ouvert avec Facebook, Twitter, avec WhatsApp? Est-ce qu'elles ont des contacts avec ces personnes ou est-ce qu'elles ont le projet peut-être d'ouvrir un dialogue avec elles?
Oui, je pense qu'au niveau mondial, il y a quand même des tentatives de dialogue entre les plateformes et les États. Je pense que la meilleure façon, c'est de discuter au sein des organismes régionaux, tels que par exemple l'Union africaine, l'Union européenne. C'est quand même des regroupements des États qui peuvent discuter avec aussi les grandes plateformes, les GAFAM, comme on dit, et trouver un consensus minimal qui va maintenant servir de base à la régulation. Les plateformes laissées à elles-mêmes n'ont pas la légitimité de réguler. Il faut nécessairement une intervention de l'État. Deuxièmement aussi, il faut dire que les réseaux, c'est quand même des enjeux économiques énormes. On estime en 2020 qu'il y a eu plus de 22 milliards de dollars de transactions commerciales sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même des enjeux financiers et des enjeux économiques énormes. On voit aujourd'hui que financièrement, Facebook fait des bénéfices qui dépassent totalement le budget des États pauvres. Donc c'est important aussi de tenir compte de ces enjeux-là. Ces enjeux financiers sont tels qu'aujourd'hui, les États aussi redoutent de perdre. Parce que quand les États disent « on veut réguler », c'est que aussi derrière cette prétention, les États veulent aussi tirer bénéfice de toutes ces transactions, de tout ce commerce qui est en train de se faire sur les réseaux sociaux et qui est seulement aujourd'hui au bénéfice des plateformes et de leurs détenteurs. Donc là aussi, on voit que les États veulent que les réseaux sociaux n'échappent pas aussi, par exemple, à la fiscalité, que les réseaux sociaux ne soient pas des zones de non-droit ou des îlots d'illégalité dans un océan de légalité. Donc il y a tous ces aspects-là aujourd'hui qu'il faut prendre en compte dans cette réflexion.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. On vient d'entendre Abdourahmane Ousmane, ancien président du Conseil supérieur de la communication du Niger. À ton micro, Amélie. Si j'ai bien compris, il encourage une co-régulation et souhaite un dialogue entre l'État nigérien et les plateformes. C'était aussi le propos de notre invité la semaine dernière, Roch-Olivier Mestre, qui pilote l'ARCOM en France. Mais on l'a entendu, Amélie, cette collaboration est loin d'être effective au Niger. Dans les faits, déjà, est-elle tout simplement possible ?
Alors, pour répondre à cette question, je suis allée à la rencontre, toujours à Niamey, d'Ousmane Mamoudou, qui est déjà intervenu dans l'atelier des médias.
Et qui blogue sur mondoblog.org, la plateforme des blogueurs francophones de RFI.
Il supervise le service numérique de Studio Kalangou, un programme porté par la Fondation Hirondelle et diffusé sur de nombreuses radios nigériennes. Studio Kalangou existe en 5 langues parce que si le français est la langue officielle du Niger, c'est loin d'être la seule qu'on parle. Et ça a d'ailleurs été l'un des éléments de réponse principaux que m'a donné Ousmane. Réguler les médias à l'ère du numérique, c'est d'abord prendre en compte ses spécificités culturelles. Bonjour Ousmane Mamoudou.
Bonjour Amélie.
Est-ce que tu penses que c'est utopique de penser qu'on peut réguler les réseaux sociaux?
Alors utopique, je ne sais pas, mais ça reste quand même assez difficile. Quand on voit un peu les compétences qui sont au niveau du CSC, quand on prend même les grands pays aujourd'hui qui ont initié tout ça, on sent que le numérique, c'est quand même, on va dire, pas une bête, mais un monstre qui leur échappe un peu. Parce que les réseaux sociaux, à mon avis, la façon dont ils se développent chez nous, ce n'est pas de la même manière qu'ils se développent en Europe. Nous, on est plutôt un public au Niger largement analphabète quand on regarde. Et donc, le public a une certaine appétence pour certains types de réseaux sociaux, notamment WhatsApp ou Telegram, où c'est de l'audio, du vocal, parce que les gens ne savent pas lire et écrire. Donc, à mon avis, c'est aussi une voie à explorer. On a vu des institutions comme la HADP, la Haute Autorité sur la Régulation des Données Personnelles, qui a été mise en place, on va dire récemment au Niger, et qui ne s'est pas encore complètement installé. Même là, on se pose des questions parce que jusqu'ici, on n'a pas vu une affaire dans laquelle cette institution-là s'est démarquée. Parce qu'il y a eu quand même, on va dire, quelques abus en matière de données personnelles qu'on a soulevées, notamment lors des élections. On avait des gens qui recevaient des messages politiques dans leur téléphone. On se demandait, mais comment ça c'est possible? Donc nous, on était partis voir cette autorité-là. On n'a eu que des réponses généralistes. Qui, à ce moment-là, est responsable? Qui autorise quoi? On ne sait pas. Et c'est des questions que les citoyens se posent. Alors nous, on a posé la question, ils nous ont dit qu'ils avaient fait des opérations de sensibilisation, on va appeler ça comme ça, sur la circulation des fake news, etc., mais qui vont se faire dans à peu près toutes les langues du Niger, parce que nous sommes aussi un pays où il y a une panoplie de questions et de problématiques. À mon avis, le CSC tout seul ne pourra pas réguler. Il faudra de toute façon des institutions publiques solides ou même une société civile qui s'intéresse à ces questions, parce que finalement, CSC, HADP, ça reste des trucs étatiques. mais il faut un contrepoids quelque part. Il faut une société civile qui regarde, par exemple, sur l'open data, qu'est-ce qu'on fait ? Qui regarde le travail de l'État. C'est vrai, il y a des données, mais qu'est-ce que l'État lui-même fait de ces données-là ? Donc, à mon avis, c'est tout plein de questions qu'il faut regarder, pas qu'au niveau de l'État, mais aussi au niveau de tous les acteurs pour aider le CSC, s'il le faut, à mettre les garde-fous nécessaires pour réguler ce secteur-là, qui jusqu'ici n'est pas bien compris, parce que jusqu'ici, il n'y a pas, à ce que je sache, une loi, par exemple, qui régule les médias en ligne. C'est les mêmes réglementations qui s'appliquent, par exemple, à la presse papier qu'on applique aux médias en ligne. Si je veux, moi, réguler mon blog, je dois imprimer un article comme finalement une presse papier, amener au niveau du greffe, de la justice et faire les formalités. Mais ce n'est en aucun cas une réglementation type adaptée aux réseaux sociaux. Qui gère les noms de domaine, comment ça se passe. C'est pour ça d'ailleurs on voit que l'État a des difficultés des fois à bloquer certains sites. Il y a des sites, des journaux par exemple qui ont été fermés mais qui réapparaissent sous d'autres noms sur Internet. Donc on voit clairement que l'État n'a pas la maîtrise de ce qui se passe. Et même les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on sent que l'État n'a pas un réel contrôle. Nos grands-parents qui se font arnaquer, nos amis, par les fameux marabouts béninois ou togolais sur les réseaux. Ça, sur cet aspect, l'État ne fait rien. Parce qu'il n'y a pas les outils, autant sur le plan national et sur le plan régional. Parce que qui dit Internet dit transfrontière. Toutes les attaques informatiques qui sont faites au Niger viennent d'ailleurs. L'essentiel, en tout cas, quand on regarde les stats des intrusions ou d'autres attaques informatiques, c'est des trucs qui viennent d'autres pays, du Nigeria, de l'Europe, de l'Amérique latine, mais très peu proviennent du Niger.
Mais il y a aussi la question des grosses plateformes privées qui sont ni plus ni moins que des entreprises, des grosses multinationales, Facebook, Twitter, WhatsApp et toutes ces grosses plateformes. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un dialogue avec elles pour les inclure en fait dans la régulation des médias ?
Alors, c'est une très bonne question, une question qu'on a débattue. On se rend compte que finalement, on parle beaucoup de censure, par exemple. Mais quand on regarde la plupart des censures, même aujourd'hui, qui sont faites, ce n'est pas l'État du Niger qui les fait, c'est les plateformes elles-mêmes qui censurent. YouTube, Facebook, Twitter, poup, ils te coupent, tu n'as aucun moyen de recours. Parce qu'il n'y a aucune représentation de ces institutions-là sur place. L'Afrique, pour elle, ça n'existe pas. Et nous, nous sommes dans des pays très riches culturellement. Il y a beaucoup de langues, beaucoup de mots. Et il y a ce qu'on appelle chez nous la parenté à plaisanterie. Moi, j'ai des amis qui plaisantent entre eux sur les réseaux sociaux. C'est des insultes, mais en réalité, ils s'insultent. Mais ils ne s'insultent pas du tout. Mais tu as Facebook qui les bloque pendant un certain temps parce qu'il estime que c'est des contenus violents pour lui. Alors que non, Facebook ne sait pas reconnaître quelqu'un qui parle dans un dialecte et qui fait de la violence sur les réseaux sociaux. De visu, peut-être les algos peuvent reconnaître la violence. Mais le message à lui-même, souvent, il est plus violent que l'action elle-même. Mais ça, Facebook ou YouTube, il est incapable de censurer ça. Parce qu'ils ne comprennent pas tous ces dialectes-là qui existent chez nous.
Et puis tu parlais aussi tout à l'heure de l'information qui circule sur WhatsApp via des messages audio. Ça voudrait dire qu'il faudrait un algorithme qui reconnaît les voix et qui puisse avoir accès aux messages des gens ?
Oui, à peu près. Mais bon, il ne faut pas oublier que quand même, ce sont des messageries privées. Mais c'est une problématique qu'on a rencontrée, bon, pas une problématique, mais plutôt un constat. Quand on faisait nos fact-checking, tu as beaucoup de messages de capsules audio. Quelqu'un se met dans sa chambre, il raconte sa vie et ça devient viral. Et les gens, ils pensent que ça, c'est vrai. Alors, comment on fait pour retrouver ça ? Pour en trouver l'auteur, c'est chiffré, WhatsApp, ça protège, comment on dit, l'utilise. C'est très compliqué. Donc, le mieux à ce niveau, je pense que peut-être que l'État peut voir dedans, mais le mieux, ça serait pour moi de procéder plutôt à une sorte d'éducation média au niveau de la population pour que les gens sachent, quand ils voient une info, comment faire face à une inconnue. Tu entends quelqu'un qui parle, quels sont les indices pour toi qui vont te dire, ah, ça, peut-être que ce n'est pas forcément vrai. On a vu ça avec le Covid. Beaucoup d'infos ont circulé. Et c'est très difficile aujourd'hui de dire non, que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. D'une part, parce que les gens ne font plus confiance aux médias, la confiance, elle plonge plus tôt. Et deuxièmement, parce que même les répondants Les gens qui doivent donner cette réponse, ils ne sont plus des gens crédibles. Quand il se passe quelque chose en Tamachèque, par exemple, le mieux, c'est de trouver un spécialiste qui parle Tamachèque et qui peut parler à sa communauté. Et tu peux faire quelqu'un de crédible qui puisse expliquer que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Voici plutôt ce qui s'est passé.
Tu parlais tout à l'heure d'une collaboration qui est de facto difficile entre un gouvernement et une plateforme. Pourtant, ça s'est déjà vu et tu parlais tout à l'heure du Covid et de fact-checking. Le ministère de la Santé nigérien avait mis en place, je crois en 2020, un chatbot qui permettait avec l'OMS et Facebook de pouvoir avoir accès à des informations sûres. C'est qu'il y a une collaboration qui est quand même possible quelque part.
Alors oui, ce chatbot, on a bien rigolé quand on l'a vu. Comment est-ce que tu peux expliquer à ma grand-mère qui vit à 800 km de Niamey qu'il y a un chatbot sur WhatsApp? Non, c'est compliqué. La meilleure façon d'apporter une réponse à ce type de problématique, c'est la radio. Chez nous, la radio, elle est très importante parce que tu prends les grandes agglomérations. Tu as Niamey, Zinder, il y a quelques personnes peut-être qui ont la télé chez eux. Mais l'essentiel de la population nigérienne, c'est que beaucoup de gens oublient, ils écoutent la radio. Et nous, les fact-checking qu'on fait, ce n'est pas du texte, on les transforme en capsules audio. C'est vraiment des interviews, des messages audio qu'on fait pour être sûr que ces gens-là qui ont vu cette info-là, l'aient à leur disposition. Et le chatbot dont tu parles, tu l'interroges en français. Or, chez nous, tu as beaucoup d'infos qui circulent en Hausa, en Zarma, dans beaucoup de langues. Nous, on a fait l'expérience au niveau de Kalungu. On a des groupes d'auditeurs, on va appeler ça comme ça, sur WhatsApp. Chaque fois, quand on a nos productions, les 2 heures de production, on les renvoie sur WhatsApp. Et les gens réclament beaucoup l'audio. Tu fais un texte, tu envoies, le gars, il te fait un vocal, il dit non, moi, je n'ai pas besoin du texte, je veux l'audio. Elle te le dit en langue, dans sa langue qu'il comprend. En zarma, en français, elle te dit « Non, moi je veux de l'audio, je ne veux pas du texte, je ne sais pas lire. » Et beaucoup de gens ne savent pas lire. C'est bien de collaborer avec WhatsApp et tout, mais ça ne sert à rien de crier dans le vide. Mais beaucoup de nos parents qui utilisent Internet, WhatsApp c'est uniquement de l'audio qu'on fait. On est tous les Nigériens, ou en tout cas, beaucoup de personnes qui vont se reconnaître savent qu'il y a des groupes, par exemple, de famille. Chez nous, on te met, tu te tapes 3-4 heures d'audio par jour minimum. Tout le monde fait des capsules audio qui les renvoient. Et donc, comme nous, on s'est dit à notre niveau, cette mauvaise info vient en audio, sous forme d'audio sur WhatsApp, il faut apporter une réponse en audio sur WhatsApp également.
Tu me disais tout à l'heure que la confiance qui était octroyée dans le CSC était aussi dégradée. Est-ce que les gens déjà connaissent cet organe-là? Ils savent qu'il existe? Ou est-ce que c'est quelque chose de marginal?
Ceux qui connaissent le CSC, c'est vraiment, à mon avis, les médias. Je pense, moi, j'ai plein d'amis qui ne savent pas du tout ce qu'est le CSC, parce qu'ils ne sont pas dans les médias, etc. Mais c'est vrai que le CSC, il fait beaucoup la une des médias. On en parle souvent quand il y a des choses, des bavures, quand le CSC intervient là, on entend. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce que cette institution l'a fait. Et je pense qu'ils sont aussi conscients, hein. Même si ça fait très longtemps qu'ils sont là, on ne sait pas comment, par exemple, les radios, même, est-ce qu'elles sont bien régulées, l'attribution des fréquences. Très souvent, tu as des mecs, des petits malins qui arrivent peut-être à faire leur petite radio du coin et ils n'arrivent pas à savoir. Ils n'ont aucun outil qui est capable de remonter ça. Une sorte de radar, quoi, capable de voir un peu ce qui se passe. Et très souvent, ce sont les opérateurs de téléphonie qui informent cette institution pour leur dire « Ok, les gars, il y a une fréquence qui me brouille. » On fait quoi? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez attribuée? Donc, à mon avis, c'est aussi une question de moyens. Il ne faut pas se voiler la face. C'est des institutions qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je dirais que la priorité de l'État, ce n'est absolument pas les médias. C'est la sécurité. L'État, s'il pouvait fermer les médias, ça l'arrange même. S'il pouvait fermer, couper Internet, c'est bien pour lui. Donc, l'État naturellement aura tendance à résoudre d'abord les questions sécuritaires, l'éducation, la santé, ensuite l'information, les médias. Clairement, au Niger, ils vivent mal, très très mal. Surtout les radios communautaires. C'est vraiment difficile pour eux.
Ousmane Mamoudou, responsable du numérique et des réseaux sociaux de Studio Kalangou, basé à Niamey. En résumé, Amélie, la tâche confiée au CSC est colossale et ses moyens restent encore très limités. C'est ce qu'a bien expliqué Ousmane. On a bien compris aussi que finalement, peu de gens ont entendu parler du CSC. Parfois même, certains le voient comme un organe de censure.
Effectivement, on a tendance à coller au CSC l'étiquette du gendarme des médias. D'ailleurs, lors du colloque sur les 30 ans de la régulation au Niger, j'ai eu l'occasion de rencontrer Moussa Adamou. Il est le représentant du CNT, la Confédération Nigérienne du Travail. À la fin d'une des tables rondes, il avait interpellé le président actuel du CSC, Sani Kabir, au sujet de l'indépendance de l'autorité de régulation et de certaines de ses actions vis-à-vis des journalistes. Une question qu'il a répétée à mon micro à l'issue de la séance.
Dans la pratique, nous avons l'impression qu'il a des problèmes à couvrir tout son champ. Au lieu, par exemple, de se focaliser sur ce qui est en lien avec les valeurs de référence de la société nigérienne, donc volet culturel, nous avons l'impression que le CSC s'attarde surtout sur le contrôle des journalistes. Et ça donne l'impression que c'est une traque, une chasse aux journalistes. Et beaucoup de journalistes ont été victimes de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pensé et ce qu'ils ont écrit. Donc ça, pour nous, c'est inadmissible. Pendant ce temps, il y a beaucoup de pratiques obscènes qui se passent un peu partout, mais dont le CSC ne dit rien. Je prends un exemple sur les films, sur les chaînes de télévision, par exemple. Ce sont des films non adaptés à la télévision. Ce sont des films destinés aux salles de cinéma qui passent quotidiennement sur les antennes de télévision ici au Niger. Vous voyez, et le CSC ne dit rien. Mais lorsqu'un journaliste fait une critique ou essaie de faire une analyse de la situation sociopolitique, surtout quand ça va contre le pouvoir en place, tout de suite on intente des procédures contre les journalistes. Et maintenant, nous, notre souci en ce qui concerne le CSC, c'est la véritable indépendance du CSC.
Par rapport à la nomination des membres, c'est ça?
Bien sûr, parce que dans les textes, le CSC est censé être l'organe ou l'institution la plus indépendante qui soit au Niger. Parce qu'il n'y a pas possibilité de révoquer un membre une fois élu. Mais malheureusement, dans certains cas que nous avons suivis, c'est que le jeu est fait avant. Donc, certains, pour se faire élire, passent par le pouvoir public, par les partis politiques, ils sont soutenus dans ça. Mais quelqu'un dont est membre du gouvernement, ou le gouvernement lui-même a financé la politique pour sa campagne, pour être élu, de quelle indépendance il va parler? Il va représenter le gouvernement, ou il va représenter celui qui a favorisé son élection. Et donc, nous pensons qu'on peut avoir du doute sur l'indépendance de certains membres, je dis bien de certains membres du CSC.
Qu'est-ce qu'on vous a répondu quand vous avez posé cette question?
Ah, mais c'est une question qui fâche. Vous avez vu pratiquement certains, sauf je crois le président de la Haute Autorité de Côte d'Ivoire, qui a compris l'essence de mon intervention, qu'il pense que ma préoccupation, c'est l'indépendance du CSC. Mais les autres, ils me parlent, ils me disent que non, ça n'a rien à voir. Dans tous les pays du monde, le président du CSC est nommé par le président de la République. On peut être nommé par le président de la République, mais on a le devoir d'ingratitude. On n'est pas contre le fait que d'ailleurs au Niger, le président du CSC n'est pas nommé, il est élu par ses pairs. Mais comment expliquer que depuis que le CSC existe, c'est toujours le représentant, c'est-à-dire que celui que le président de la République a désigné pour être au CSC, c'est lui qui est toujours le président du CSC. On ne peut pas élire quelqu'un d'autre qui ne soit pas le représentant du président de la République. Ça pose des interrogations. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Tout le plaisir a été pour moi.
De son côté, le CSC maintient qu'il est indépendant car, comme l'a souligné Moussa Adamou qu'on vient d'entendre, ses membres élisent eux-mêmes leur président, à la différence d'autres autorités de régulation comme celle du Sénégal par exemple, même si effectivement, parmi ses 15 membres, 3 d'entre eux sont nommés par le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale.
Début décembre, à la fin de ce colloque consacré à la régulation à l'ère numérique, le Conseil supérieur de la communication du Niger a adopté une liste de recommandations. Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Globalement, un condensé de tout ce qui a été discuté durant ces 3 jours. Le CSC est conscient des défis qui l'attendent, mais les mesures prises restent assez floues sur le chemin que va prendre l'autorité pour mener à bien sa mission. En attendant, le régulateur a appelé l'État à poursuivre le travail d'adaptation des textes législatifs à l'ère du numérique, à augmenter le montant alloué au fonds d'aide à la presse et en ce qui le concerne, à adopter une stratégie commune de dialogue avec les plateformes numériques et à renforcer sa coopération avec les acteurs de la cybersécurité.
Le chemin à parcourir reste long. Merci Amélie.
Merci Steven.
On termine cette émission avec Mondoblog Audio. Mondoblog, c'est la plateforme des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, c'est la Togolaise Benedicta Oniglo qui s'exprime. Elle nous raconte sa passion pour Nollywood, le cinéma nigérian qu'elle a découvert dans les années 90.
Pour me distraire, après la lecture, l'écriture et la cuisine, vient le cinéma. Et notamment les films de Nollywood, c'est-à-dire le cinéma nigérian.
Whoever gave you this idea?
Car il n'y a pas que Hollywood dans la vie. Mon intérêt pour le cinéma africain naît vers la fin des années 90, lorsqu'à la faveur de l'Harmattan, ce vent sec venant du Sahara, nous arrivons à capter Ghana Télévision, la chaîne nationale ghanéenne. À cette époque déjà, les films nigérians commencent à être diffusés tous les vendredis dans un programme intitulé Africa Movie. Puis, au début des années 2000, c'est la libéralisation des médias au Togo. Les chaînes de télévision privées apparaissent. L'une d'entre elles, Radio-Télévision Delta Santé, RTDS, se spécialise dans la diffusion des films nigériens dont je deviens alors une inconditionnelle.
Please, I don't have any time for any gossip now. Hein? Yes.
Arrive ensuite une chaîne de radio et télé chrétienne, Radio-Télévision Zion, dont le propriétaire et directeur, bien connu du public togolais, est le pasteur Adjao Rousseau. Sa particularité, au-delà de posséder une franchise d'église, est d'affubler les acteurs des films de prénoms plus drôles les uns que les autres. Il utilise aussi un langage très fleuri et ses personnages sont hauts en couleur. Ainsi, nous retrouvons Yege Daniel, un homme riche un peu idiot, qui se fait rouler par toutes les femmes qu'il côtoie ou qu'il épouse et qui le rendent cocu. Ou bien Mama Ovin Belzébul, qui a souvent le rôle de la belle-mère acariâtre et méchante. Mais encore, Dorévige Isabelle, une fille qui profite souvent de la richesse des hommes.
Hey, please, please, please.
Le pasteur Adjao Rousseau a ainsi contribué à sa manière à la démocratisation du cinéma africain et plus particulièrement du cinéma chrétien nigérian. Aujourd'hui, grâce aux chaînes de VOD et à la forte demande de la diaspora nigériane et africaine en général, les scénarios de Nollywood ont beaucoup changé. Ce ne sont plus des histoires de conversion religieuse et de lutte spirituelle sur fond de musique traditionnelle. Nous assistons plutôt au quotidien de la classe moyenne africaine. Les jeunes gens avec une ambition sociale, la quête du bonheur familial, les conflits dans le milieu professionnel, mais aussi des témoignages de violences conjugales ou de harcèlement sexuel. Voilà, vous avez maintenant une meilleure idée du cinéma hollywoodien. À vos pop-corns et bonne séance.
Mondoblog.org.
C'était la mondoblogueuse togolaise Benedicta Oniglo. Ce mondoblog audio était préparé par Nitya Pakiri. Il est à retrouver comme tous les autres sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon de Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Partout où vous pouvez, commentez et mettez des étoiles à l'Atelier des médias. Cela nous permettra d'être visible et donc encore plus écouté. Écrivez-nous à l'adresse atelier@rfi.fr ou via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.